Je suis Halina Nidramé, je suis responsable du développement des capacités AfriCares depuis novembre 2016. Avant, certains d'entre vous me connaissent comme un chercheur AfriCares, donc je fais un peu les deux en ce moment. Donc je vais vous donner cette présentation, ça c'est un peu la outline. Donc je vais d'abord vous présenter brièvement ce qu'on fait, pourquoi on fait le développement des capacités, où on le fait, comment on le fait. Je vais vous donner un peu les statistiques de formation qu'on a eues entre 2014 et 2016. Et je vais vous présenter trois initiatives majeures qui sont en cours. Et pour terminer par les conclusions et les perspectives. Je pense qu'aucun d'entre nous ne va questionner l'importance de la formation, l'importance du développement des capacités. On a entendu ça tout au long de la journée. Mais AfriCares, je voulais juste mentionner qu'AfriCares a mis ça comme un priority area dans son plan stratégique. Donc c'est un des points majeurs dans lequel AfriCares pense contribuer. Et je pense que ce sera aussi dans le prochain plan stratégique d'AfriCares. Comment on fait le développement des capacités AfriCares? Il y a différents domaines d'action ou domaines d'intervention, si je peux dire. Il s'agit du renforcement des capacités des ressources humaines, l'amélioration des skills, l'amélioration des compétences techniques et le savoir-faire. Et nous contribuons également à l'amélioration et des structures au niveau des partenaires des projets et nous donnons un support institutionnel également. Et ça se fait à travers des formations, la formation des étudiants, les formations de groupes, les donations d'équipements, de véhicules dans le cadre des projets collaboratifs et aussi un backstopping technique et organisationnel. Il y a des pays qui nous contactent et qui veulent qu'on les aide à restructurer, par exemple, leur programmerie et nous intervenons dans ces différents domaines-là. Oui, bien sûr, les bénéficiaires sont les bénéficiaires des projets, les systèmes nationaux, les étudiants, etc. Les activités de formation, que ce soit des formations individuelles ou des formations de groupe, se font aussi bien à AfriCares que dans les pays. Donc, au sein d'AfriCares, ça se fait dans les bureaux nationaux, dans les stations régionaux, mais aussi dans les deux structures-là que j'ai mentionnées, le centre de formation qui est basé à Saint-Louis, mais aussi dans le cadre du centre d'innovation verte qui est basé à Cotonou. Et dans les pays, ça se fait essentiellement dans les hubs et en partenariat avec les systèmes nationaux. Et ça se fait à travers les projets d'AfriCares, mais aussi sur la demande des pays. Parce que comme vous le savez, il y a certains pays qui viennent vers nous et nous disent « Oh, on a besoin que vous nous ayez dans tel domaine, dans telle chose, et nous pouvons effectivement vous accompagner dans ça. » Premier point, les statistiques entre 2014 et 2016. Je commence d'abord par l'accueil et la supervision, la formation des étudiants et des stagiaires. Donc nous, pour juste clarifier comment se fait le comptage, nous considérons pour chaque année les étudiants qui sont diplômés au cours de l'année ou qui sont encore en cours. Donc, par exemple, il y a certains étudiants qui sont là entre 2014 et 2015. Ils seront comptés en 2014 et 2015 parce qu'ils bénéficient toujours de la supervision des équipes d'AfriCares. En termes de financement, les financements viennent des projets d'AfriCares, mais aussi des financements qui ne sont pas d'AfriCares. Par exemple, des étudiants peuvent venir avec une bourse WAP. Ils peuvent venir avec une bourse de IFS et AfriCares va les aider à mener à bien leur recherche. Donc, il y a des complémentarités de financement. Et certains viennent aussi, ils s'autofinancent eux-mêmes. En termes de pourcentage des femmes, en 2016 et 2015, c'était à peu près 32% des étudiants étaient des femmes et en 2014, c'était 34%. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez un peu la distribution des étudiants entre PhD, master et licence et quelques internes entre la période 2014, 2015 et 2016. Et vous voyez un peu l'évolution au cours du temps. Et sur le graphique de droite, vous avez la distribution par région. Donc, ça parle de soi-même. La région Afrique de l'Ouest est quand même assez dominante et suivie de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Et les deux régions, Afrique du Sud et Afrique du Nord, sont pas représentés. Madagascar, on le compte dans l'Afrique de l'Est, donc avec les autres. Juste pour vous donner un aperçu un peu des nationalités qui sont le top 5, des nationalités qui sont représentées parmi les étudiants, vous pouvez voir au cours des trois dernières années, c'est toujours le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, un peu le Ghana sur les deux premières années. Et donc en cinquième position, c'est toujours un peu variable. En termes de financement, la majorité des étudiants sont financés par des projets d'Afrique RAS, que ce soit pour leur stipends, leur allocation, mais aussi pour les frais de recherche. Certains étudiants sont financés, comme je le disais tantôt, avec des financements non Africa Rice, où ils s'autofinancent, mais dans les deux cas, les frais de recherche sont couverts par les projets d'Africa Rice. Le second point concerne les formations de groupe. Donc pour les formations de groupe, nous prenons en compte les formations qui ont été organisées par Africa Rice à Africa Rice ou dans les pays. Mais comme je le mentionne là-bas, la plupart du temps, les formations qui se font dans les pays sont sous-estimées. Parce qu'on ne considère pas toujours les formations qu'on fait comme étant, par exemple, quand on fait la dissémination d'une technologie, on oublie le caractère de développement des capacités qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'on est très largement au-dessus des valeurs que je vous montre ici. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez la représentation des participants aux formations de groupe par genre, 37% en 2014, 58% en 2015, 49% en 2016. Et les pays, les régions, ou plus, je devrais dire la région la plus représentée encore, c'est l'Afrique de l'Ouest, avec notamment le Bénin et le Nigeria en tête. Donc en termes de financement, pareil, les financements d'Africa Rice constituent la majorité. Mais on a remarqué, par exemple, en 2016, qu'il y a des gouvernements qui ont financé eux-mêmes des formations. En particulier, le gouvernement du Sénégal a fourni des fonds pour qu'on forme un groupe de jeunes du Sénégal. Pareil pour le gouvernement du Nigeria, dans le cadre de leur programme ATA, la transformation de l'agriculture, il y a beaucoup de formations qui ont été financées également. Donc j'exhorte beaucoup d'autres pays à suivre cet exemple pour qu'on puisse aussi répondre à votre demande, parce que les projets d'Africa Rice ne pourront pas satisfaire toute la demande. Donc ça, c'est juste quelques highlights des couvertures médiatiques, donc par rapport à ce qu'on fait au Nigeria, etc. Donc il y a des choses qui se passent. Et comme vous le voyez, il y a différents partenaires, par exemple la FAO est mentionnée, USAID, SAPEC également. Le deuxième point de ma présentation, plutôt troisième, c'est les initiatives qui sont en cours. Je vais d'abord présenter la première qui consiste à professionnaliser les acteurs de la chaîne de valeur. Comme vous le savez, je suppose beaucoup mieux que moi, que le secteur rizicole a un très fort potentiel pour l'emploi des jeunes. Or, vous le savez, il y a beaucoup de sous-emploi dans la plupart de nos pays. Mais si on arrive à rendre ce secteur attractif, nous pensons qu'il y a plus de jeunes qui vont s'engager dans la riziculture. Et en réponse à ça, Africa Rice, avec le soutien du gouvernement du Sénégal, de la Banque africaine de développement, de l'UMOA et du système CD, a mis en place une plateforme spéciale qui a été dédiée à cette professionnalisation des acteurs de la chaîne de valeur, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Et il s'agit en fait du centre de formation, du centre régional de formation à Saint-Louis, qui a été inauguré l'année passée, le 7 mai. Je pense qu'en 2014, quand vous avez fait le NEC à Saint-Louis, certains d'entre vous ont peut-être visité ce centre de formation. Mais depuis lors, il y a eu quand même des développements. Et le centre de formation a été reconnu comme un centre d'excellence de l'UMOA. Et dans le cadre de ces activités, juste un aperçu rapide de ce que c'est, mais je pense que vous le connaissez déjà. Donc le centre de formation a tous les équipements nécessaires pour accueillir les participants et donner des cours dans des conditions quand même avec des standards de qualité élevés. Et afin d'aller un peu plus loin dans la gestion et dans l'exécution des activités du centre de formation, en 2015, il y a eu un business plan qui a été développé sur une période de 5 ans, 2016 à 2022, qui est en cours d'exécution, afin de permettre au centre de formation d'établir une bonne réputation, mais aussi de devenir financièrement autonome. C'est-à-dire que le siège d'Africa Rice ne devrait plus envoyer de l'argent au centre de formation pour fonctionner, mais le centre de formation doit pouvoir générer lui-même ses revenus pour couvrir ses coûts. Donc ce business plan est en cours d'exécution. on va dire, les deux grands types de formation que le centre de formation est en train d'exécuter sont en fait les... elles se font sur la base des demandes. Par exemple, des projets d'Africares peuvent demander à faire des formations. Des partenaires peuvent demander à faire des formations. Mais nous espérons aussi que des organisations qui sont impliquées dans l'agriculture, dans le secteur agricole, peuvent aussi utiliser cette facilité. Donc, cette facilité est là pour nous tous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Bon, il y a toujours un coût, mais puisqu'on est entre nous, le coût sera beaucoup moindre que si c'était des personnes extérieures. Il y a des cours thématiques qui se font et en général, c'est des sessions de formation de courte durée, entre 1 et 3 semaines. Et entre 2014 et 2016, il y en a eu 28, si je ne me trompe pas, et à peu près 414 personnes ont été formées sur des sujets divers, que ce soit la production de semences, l'entrepreneuriat des femmes, la production, les bonnes pratiques culturelles, etc. La mécanisation aussi. Et ce qu'on voudrait maintenant mettre en place, c'est un peu la formation vocationnelle qui consiste à former des jeunes sur des périodes de 1 à 4 mois en fonction des sujets pour qu'ils deviennent des professionnels d'un métier spécifique de la riziculture. Je vais vous montrer tout de suite le portfolio de vocational training qu'on a identifié. Donc là, vous avez une liste de 12 métiers que les jeunes peuvent apprendre pour pouvoir les exercer. La plupart sont des métiers de service, mais il y a aussi des métiers d'entrepreneur, si je peux dire. Donc, ça va du conseil agricole à la production de semences de façon professionnelle, à la commercialisation du riz et aussi au management d'une unité, d'une entreprise de transformation. Et les personnes, les bénéficiaires qui sont ciblés, bien entendu, ce sont les jeunes professionnels qui sont plus ou moins déjà dans le métier, mais qui se cherchent un peu, qui ne savent pas vraiment comment fructifier leur business. C'est aussi des jeunes diplômés qui peut-être n'ont pas encore trouvé de travail ou qui en ont et qui veulent s'engager dans la riziculture. Mais c'est également les jeunes qui n'ont pas su poursuivre leurs études. Et il y en a beaucoup. Donc on leur donne ici une opportunité d'avoir une carrière et de pouvoir aussi se prendre en charge financièrement. Donc ça, c'est en cours, c'est pas encore démarré. La deuxième initiative que je voudrais présenter, c'est l'engagement des jeunes dans les services de conseil, en fait, pas uniquement de conseil, mais dans les services agricoles. Le premier exemple est ce qui se fait dans le centre d'innovation verte qui est basé à Cotonou. Ce centre d'innovation verte consiste, son objectif en fait c'est d'apporter des compétences et un soutien aux paysans du Bénin. Parce que ce centre d'innovation verte est spécifique pour le Bénin. Et il s'exécute à travers l'unité de Knowledge Management d'Africares sous la responsabilité de Marc Bernard. Et comme j'ai juste cité, donc comme il le dit si bien, c'est une nouvelle approche qui est très existante parce qu'elle est centrée sur la dissémination des innovations agricoles et elle offre une gamme de services aux communautés rurales par l'engagement des jeunes et leur formation. Donc, dans le cadre de ce programme, ils ont mis en place un programme de développement des capacités de formation qui s'articule autour de 4 piliers, donc qui sont la formation de groupe, donc avec des formations face-to-face, vis-à-vis, si je peux dire, la formation de e-learning, et le mentorat en utilisant des professionnels de la riziculture pour permettre aux jeunes de gagner encore un peu plus d'expérience. Et le quatrième pilier, c'est l'apprentissage de jeune à jeune. Donc, ils vont former des jeunes dans des centres spécifiques. Et ces jeunes-là, une fois qu'ils sont déployés dans les champs, vont encore former des jeunes qui sont engagés dans les communautés rurales. Donc là, c'est juste un overview de ce qui se fait. Ils ont ciblé des collèges agricoles du Bénin, je crois 10 collèges agricoles. Ils ont développé des programmes de formation spécifiquement complémentaires à ce qu'ils ont déjà. Ils ont développé des cours et ils ont procédé à un recrutement. Et au cours de ce recrutement, il y a 124 jeunes diplômés, enfin jeunes étudiants, qui ont été déployés dans 173 villages du Bénin. Et ils vont donner des services à peu près 30 000 paysans. Et au cours de leur service, ils vont également avoir des formations complémentaires en entrepreneuriat, en communication et en, comment on appelle ça, transfert technologie participative. Donc, ces jeunes-là utilisent beaucoup les tablettes parce que les cours sont en ligne. Donc, ils vont en ligne. Il y a des centres de knowledge centers qui ont été établis dans chaque village ciblé. Et ils récupèrent les ressources, les informations nécessaires pour les paysans et ils agissent comme des conseillers agricoles auprès de ces paysans pour disséminer les technologies dont les paysans ont besoin. Donc, c'est un peu encore en phase pilote parce que le programme a commencé, je pense, l'année passée ou un peu avant. Et normalement, cette année, ils doivent faire l'évaluation pour voir et si possible, étendre à d'autres pays. Donc, leur plateforme de e-learning est disponible à tout le monde. Et à ce jour, ils ont à peu près plus que 20 cours qui sont en ligne. Ils sont encore en français. Ils sont en train de travailler sur la version anglaise. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est que ces 30 cours ne ciblent pas uniquement le riz. Donc, ça cible différentes spéculations. Il y a des cours sur le maïs, le cours sur le manioc, sur le soja, etc. Des cours sur l'entrepreneuriat et la communication. Donc, si vous êtes intéressé, éventuellement, vous pouvez faire un tour et voir ce qu'il y a dessus. Et vos commentaires seront aussi les bienvenus pour qu'on puisse améliorer ça. Deuxième exemple d'engagement des jeunes dans les services agricoles, c'est au niveau des hubs et des plateformes d'innovation dans les pays. Les jeunes sont formés à devenir des prestataires de services. Donc, il y a des technologies telles que le Rice Advice, le Acid Thresher et le Gem Parboiling. Ils reçoivent la formation pour ensuite donner les services aux paysans. Et on les aide aussi à développer leur capacité de business management. La troisième initiative concerne l'initiative qu'on est en train de mettre en place pour renforcer les capacités des systèmes d'éducation supérieure pour renforcer la capacité en recherche risicole et innovation. Sam le mentionnait ce matin, d'après les statistiques de AST sous IFPRI, là vous avez par exemple le nombre total de chercheurs agricoles, le nombre de chercheurs impliqués qui travaillent sur les cultures. Et parmi ceux qui travaillent dans les cultures, quel est le pourcentage qui travaille sur le riz et l'investissement que les pays font pour l'agriculture? Donc, si vous regardez bien ce tableau, il y a certains pays pour lesquels... en fait, il n'y a pas les données pour tous les pays membres d'Africa Rice parce que j'ai pu en trouver que 14. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de voir que en termes d'investissement, on est encore très en deçà de ce dont la plupart des gouvernements ont promis. Ceci nous amène à voir aussi le niveau faible, enfin l'insuffisance des capacités en termes de chercheurs qui travaillent exclusivement sur le riz. Et quand on regarde un peu dans la sous-région, enfin au moins dans les pays membres d'Africa, on s'est rendu compte qu'il n'y a pratiquement aucune des universités qui a un curriculum spécifique sur le riz. Et quand vous regardez aussi les chercheurs qui travaillent dans ces universités, il n'y a pas de groupe qui travaille spécifiquement sur le riz, alors que le riz est quand même une culture très stratégique. Donc, c'est ça qui nous a fait, en fait, penser à cette initiative. Et l'objectif de cette initiative, c'est de contribuer à la transformation du secteur risicole en engageant les jeunes diplômés et les institutions d'éducation supérieure pour trouver les solutions auxquelles font face les acteurs de la chaîne de valeur riz en Afrique. Donc, nous espérons qu'au terme de cette initiative, on aura des diplômés qui sont déjà très engagés dans la recherche risicole, qui fournissent des solutions et qu'il y aura une meilleure adéquation entre l'éducation supérieure et le monde risicole, si je peux dire. Donc, ça, c'est brièvement le modèle qu'on est en train de mettre en place. Donc, vous avez Africa Rice qui, en plus d'Africa Rice, qui peut aussi... la connaissance des partenaires à travers le GRIS, mais aussi à travers les systèmes nationaux, pour délivrer les connaissances, les technologies et les outils liés à la science risicole aux institutions d'éducation supérieure pour mettre en place un diplôme spécialisé, postgraduate diploma. Donc, à ce moment, les jeunes diplômés peuvent suivre ce cours-là et dans le cadre de cette formation, ils auront une période de field placement. Ils iront au champ, ils iront à l'encontre des communautés qui cultivent le riz, à l'encontre des, à l'encontre des acteurs de la chaîne de valeur pour s'immerser dans leur monde et savoir ce qui se passe, quels sont les problèmes qu'ils ont. Et ça va les amener à réfléchir à quelles solutions ils peuvent leur apporter, quelles sont les opportunités de business également. Et à ce moment, l'information peut remonter à travers AfriCares, à travers les autres systèmes pour que ce soit diffusé. Donc les trois composantes majeures, c'est la certification, le diplôme et la mise en place des petits financements pour les aider à mener à bien cette recherche dans les communautés. Sur ce, je vais finir sur les conclusions. Donc, en renforçant les capacités des acteurs du secteur rizicole, AfriCares contribue à améliorer les performances de la chaîne de valeur dans son intégralité et à surmonter les insuffisances en termes de ressources humaines le long de la chaîne de valeur. Donc, il y a eu des contributions significatives pour la formation de la prochaine génération des chercheurs, mais aussi du renforcement des capacités des chercheurs et des équipes techniques dans les systèmes nationaux. Donc, en faisant ça, on se rend compte que les systèmes nationaux sont des acteurs, mais aussi également des bénéficiaires. Les bénéficiaires ont également acquis des compétences et ils ont des technologies nouvelles. Et le dernier point, il s'agit de renforcer l'utilisation du centre de formation pour qu'on puisse atteindre les objectifs du plan du business plan. Donc, les perspectives, la mobilisation des ressources, on l'a entendu déjà. Donc, c'est de mettre en place des approches smart pour mobiliser les ressources dans les pays, mais également partout où c'est possible. Parce que les pays ont leurs besoins, ils ont parfois des financements. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous devons aussi lancer cette initiative de Rice University en faisant du lobbying auprès des donneurs, auprès des partenaires potentiels. En termes d'emploi des jeunes, au-delà de leur donner les compétences nécessaires, nous devons aussi, à travers le COM, produire l'environnement propice pour ça, en facilitant, ou en tout cas en mettant à la disposition des ministres l'information pour qu'ils puissent mettre en place des politiques favorables à l'établissement, à l'emploi des jeunes. Et ils ont aussi besoin forcément de capital pour démarrer. Les deux derniers points, il s'agit de mettre aussi en place des mécanismes pour favoriser le reporting de ce qui se passe dans les pays et aussi faire un suivi, évaluation beaucoup plus efficace que ce qu'on fait maintenant pour pouvoir vraiment mesurer l'impact des actions de développement des capacités que nous faisons. Et au-delà de ça, faire procéder à des développements de capacités qui sont beaucoup plus guidés par la demande. Parce que là, on est beaucoup lié au projet. Donc, certains pays sont laissés en rade, d'autres sont top. Donc ça, c'est plus ou moins le schéma que nous pensons suivre. Envoyer un questionnaire aux différents acteurs pour qu'ils puissent nous dire quelles sont leurs demandes. Et en fonction de leurs demandes, définir un agenda de développement des capacités. Et en fonction des financements qui viennent, que ce soit par les projets ou par les pays eux-mêmes, pouvoir répondre à ces différents points d'action de l'agenda. J'avais juste une dernière slide qui vous disait que le take-home message, c'est que que j'ai un peu emprunté de Nelson Mandela, c'est que le développement des capacités est la meilleure arme qu'on puisse avoir pour changer le secteur rizicole. Donc j'espère que ce sera toujours dans vos agendas et que vous pourrez faire un lobbying auprès des différents pays. Sur ce, je vous remercie de votre attention.